Le magazine des Nations Unies.
Accès universel à l'information, un droit que le monde devra désormais célébrer chaque année le 28 septembre. Première célébration, c'était donc le mercredi 28 septembre la semaine dernière. À Kinshasa, l'UNESCO et le gouvernement ont reconnu la nécessité de l'accès à l'information en République démocratique du Congo. Le Conseil des droits de l'homme dénonce l'usage excessif de la force lors des violences du 19 et 20 septembre à Kinshasa et demande une enquête indépendante sur ces événements. Une experte du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme nous en dira plus dans Décryptage. Acteurs humanitaires nationaux et internationaux victimes d'enlèvements au Nord Kivu ces 9 derniers mois, au Tchadi halte à ces fléaux. Le point tout à l'heure avec le chargé des communications de la coordination des affaires humanitaires en RDC au Tchad.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour, le 28 septembre est décrété journée internationale à l'accès universel à l'information. À Kinshasa, l'UNESCO et les ministères de la communication et des médias ont célébré cette journée par l'organisation d'une table ronde à laquelle ont été associés notamment des professionnels des médias et des responsables de la société civile. Une table ronde présidée par le ministre de la communication et des médias lui-même et le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, Honoré Misenga Kalala, a suivi pour le MAG UN cet événement.
Les normes, les politiques, les dispositions légales et réglementaires autour de l'accès universel à l'information en RDC, défis, enjeux et perspectives pour un journalisme responsable. L'accès à l'information et la promotion du journalisme d'investigation, ce sont là deux thèmes autour desquels ont été axées les discussions de la table ronde. Mais avant l'abordage, deux discours officiels, d'abord celui du représentant de l'UNESCO en RDC. Monsieur Abdourahmane Diallo définit ici entre autres ce qu'il faut entendre par le droit à l'accès à l'information.
L'accès à l'information est le droit de toutes les personnes physiques et morales qui se composent du droit de la recherche, de l'accès et de la réception des informations des organismes publics et des organismes privés exerçant une fonction publique et le devoir de l'État de fournir de telles informations.
En dépit de l'importance de ce droit fondamental, M. Diallo constate cependant que beaucoup de pays dans le monde ne disposent pas encore de la loi sur l'accès à l'information. Il se réjouit néanmoins du fait qu'en RDC, le projet de cette loi est en cours d'adoption au Parlement. Ensuite, après le représentant de l'UNESCO, c'est le ministre de la Communication et des Médias. Point fort du message de Lambert Mende, sa reconnaissance de la nécessité d'assurer et de garantir l'accès, tant individuel que collectif, à l'information en RDC, gage de tout développement, le ministre Mende.
En plus d'être une nécessité, l'information est donc une garantie de l'épanouissement individuel et du développement collectif, car il existe bien un lien direct entre information et connaissance. L'information est de ce point de vue un véritable viatique à la connaissance qui est à son tour une clé pour la jouissance des autres droits et le développement intégral d'un peuple.
Enfin, la partie exposée de bas de la table ronde a eu comme l'un des orateurs du jour le sénateur Moïse Nyarugabo. Dans sa conclusion, ce dernier prévient que même si la loi en cours au Parlement sera adoptée, son application ne sera pas aisée. Le sénateur estime toutefois que tout doit être mis en œuvre pour que la loi sur l'accès à l'information devienne une réalité et il dit pourquoi.
Si tout le monde savait que ce qu'il fait, que la décision qu'il va prendre, que le document qu'il va signer sera connu de tous, je suis convaincu qu'il réfléchira par deux fois. Et peut-être qu'il y a des documents qu'il ne signera pas, il y a des décisions qu'il ne prendra pas. Donc, le début de la sagesse, c'est la peur du gendarme. Cette loi fera partie de ce document.
Dans la foulée, le représentant de l'UNESCO a lu in extenso le message de Madame Irina Bokova, directrice générale de cette institution, à l'occasion de la première journée internationale de l'accès universel à l'information.
La deuxième actualité, c'est la présence des rebelles sud-soudanais sur le sol congolais, notamment à Muningi, au Nord Kivu. Une présence qui devient embarrassante, voire encombrante pour la population et les autorités locales. Ces derniers demandent la délocalisation de ces rebelles dans un autre pays. La question a été évoquée mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Écoutez à ce sujet Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO. Il revient sur les circonstances de la venue de ces rebelles en RDC et aussi sur leur délocalisation. Ses propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Que c'est suite à des combats qui ont eu lieu au Sud-Soudan entre la faction de Riek Machar qui était vice-président du Sud-Soudan et les troupes de Salva Kiir qui sont les troupes gouvernementales. C'est à l'issue de ces combats que ces miliciens, en compagnie avec même Riek Machar, ont eu à venir en République démocratique du Congo. Et alors, c'est sur la requête des autorités congolaises que la MONUSCO est intervenue sur des bases purement humanitaires pour extraire tous ces miliciens sud-soudanais et leur prodiguer l'assistance première et sauver des vies. Les autorités du territoire de Nyiragongo ont exprimé leurs préoccupations. Les énergies sont mises à contribution pour que, avec les autorités sud-soudanaises, mais aussi avec les autorités congolaises, des solutions idoines puissent être trouvées pour acheminer éventuellement ces sud-soudanais hors de la République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le Conseil des droits de l'homme condamne l'usage excessif de la force lors des violences du 19 et 20 septembre à Kinshasa. Il demande par conséquent une enquête indépendante et transparente et des poursuites judiciaires contre les auteurs des violations des droits de l'homme. C'est ce qui ressort des débats engagés mardi dernier en plénière de la 33e session du Conseil des droits de l'homme à Genève sur la situation en RDC. Madame Anne-Marie Dongui, officier des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle s'entretient au téléphone à partir de Genève avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Madame Anne-Marie Dogu, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, la 33e session du Conseil des droits de l'homme se tient à Genève. Elle est consacrée entre autres à la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Madame Anne-Marie, pourquoi le choix de la RDC?
Comme vous le savez, la situation des droits de l'homme en RDC constitue une préoccupation majeure pour la communauté internationale, depuis plus d'une décennie d'ailleurs. L'ancienne commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui a été remplacée maintenant par le Conseil des droits de l'homme, discute, donc en son temps, l'ancienne commission discutait de la situation, et aujourd'hui le Conseil continue de discuter régulièrement de la situation des droits de l'homme dans le pays. Et également, le Conseil produit des recommandations à la RDC. Alors, pour en revenir à la session actuelle du Conseil, qui est la 33e session, comme vous l'avez mentionné, donc elle s'étend du 13 au 30 septembre. Elle considère plusieurs situations, y compris celles de la RDC et d'autres pays. Donc, il n'y a pas que la RDC. Donc, il y a des pays comme l'Ukraine, le Burundi, la Libye, la Centrafrique, la Somalie et d'autres États. Et la session spécifique sur la RDC s'est tenue hier, 27 septembre. Et elle fait suite à la dernière résolution du Conseil des droits de l'homme. Donc, cette résolution avait demandé au commissaire de soumettre un rapport sur la situation des droits de l'homme. Et sur la base de ce rapport, devait se tenir donc un dialogue interactif. Et donc, c'est de ces questions qu'ont discuté hier le Conseil.
Oui, madame, mais les débats se sont déroulés hier, vous l'avez dit. Que pouvons-nous retenir de ces débats sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo?
Alors, la session sur la RDC, au cours de cette session, la haute commissaire adjointe a exprimé sa gratitude à la RDC pour la coopération avec le Bureau des droits de l'homme. Et puis aussi, les efforts du gouvernement ont été reconnus au niveau législatif et institutionnel. Toutefois, le Conseil et le Haut Commissariat ont exprimé leurs vives préoccupations quant à la situation des droits de l'homme et notamment les graves événements des 19 et 20 septembre. Et comme vous le savez, selon les derniers chiffres qui sont disponibles et les enquêtes sont en cours, nous avons enregistré plus de 53 morts, y compris 4 policiers, 127 blessés par arme à feu et par arme blanche. Et puis des attaques qui ont eu lieu contre des propriétés publiques et privées. Il y a eu un usage excessif de la force, il y a eu des arrestations. Donc les graves événements du 19 et 20 septembre ont été largement discutés. Également, la nécessité de punir les auteurs des violations des droits de l'homme et crimes qui ont été commis. Et puis le Conseil également a insisté sur la nécessité de créer les conditions pour un dialogue crédible avec l'opposition et éviter d'inciter à la violence. Pareillement, également, les membres du Conseil ont recommandé à la RDC de garantir l'expression des droits et libertés, y compris dans le contexte électoral, et également de libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion. Également, sur la question des violences sexuelles, il a été recommandé que les auteurs soient punis et que les victimes bénéficient d'une prise en charge holistique de réparation adéquate. Également, en ce qui concerne les pays, le Conseil a demandé que la protection des civils soit assurée. C'est à peu près de quoi le Conseil a débattu. Et puis la résolution n'est pas encore finalisée. La résolution sur la RDC sera rendue publique à la fin de la session.
Tout à l'heure, vous évoquiez les violences du 19 et 20 septembre dernier. Et la haute commissaire adjointe, Kate Gilmore, soutient une enquête indépendante. Est-ce que le haut commissariat des Nations Unies conduira cette enquête? Et au cas où les auteurs seraient connus, la poursuite viendrait de la justice internationale ou nationale?
Alors, ce que la haute commissaire adjointe a demandé, c'est une enquête indépendante, transparente et crédible, afin que les auteurs des violations et crimes qui ont été commis soient traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas une décision ferme prise au niveau des Nations Unies d'envoyer à ce stade des enquêteurs sur place. Donc, il appartient déjà aux autorités judiciaires de mener les enquêtes judiciaires de façon indépendante.
Mais lorsque vous parlez des autorités, ce sont des autorités nationales qui doivent mener les enquêtes et donc la justice nationale, c'est ça?
La justice nationale. Donc la justice nationale à ce stade devrait se saisir de ces faits et mener les enquêtes judiciaires appropriées de façon indépendante. Comme vous le savez, dans un État, c'est la séparation des pouvoirs, donc le pouvoir judiciaire doit être indépendant pour mener ces enquêtes. Donc à ce stade, il n'y a pas une décision ferme qui a été prise d'envoyer des enquêteurs internationaux sur place sur les faits des 19 et 20 septembre. Mais toutefois, vous savez que nous avons un bureau des droits de l'homme qui est sur place et ce bureau fait des enquêtes de droits de l'homme et le bureau est prêt à coopérer avec les autorités congolaises, notamment judiciaires, pour que toute la lumière soit faite sur les faits.
En tout cas, Madame Anne-Marie Dougui, je rappelle que nous venons d'avoir un entretien avec vous sur la 33e session du Conseil des droits de l'homme qui se tient maintenant à Genève et qui est consacrée, entre autres, vous l'avez dit, à la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Madame Radio Capi vous remercie.
Ouvrons cette page d'information en brève en nous rendant à Mavivi, une localité située à 2 km de Beni au nord Kivu. Le centre de santé de référence de cette localité vient d'être doté d'un bloc opératoire à la maternité, un ouvrage réalisé par la MONUSCO dans le cadre d'un projet à impact rapide pour un coût global de 56 000 dollars. La remise de ce bloc opératoire a eu lieu le 23 septembre dernier. Enfin, 27 septembre 1990, 27 septembre 2016, il y a 26 ans, la RDC a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant. Un anniversaire que le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo a jugé nécessaire de rappeler dans une déclaration rendue publique le mercredi 27 septembre au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. M. Pascal Villeneuve a notamment appelé la société civile, la classe politique et les leaders d'opinion congolais à tout mettre en œuvre pour placer l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de leurs préoccupations.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Dans une déclaration de son chef de bureau en RDC datée du 23 septembre 2016, Otia dénonce le fait qu'au cours de 9 derniers mois, les acteurs humanitaires nationaux et internationaux aient été victimes de 9 enlèvements dans la province du Nord Kivu. Yvon Edoumou, chargé de l'information et du plaidoyer au bureau Otia RDC, fait le point sur ces enlèvements dans un entretien avec Honoré Misenga Kalala.
Yvon Edoumou, bonjour.
Bonjour.
9 acteurs humanitaires nationaux et internationaux victimes d'enlèvements au cours de 9 derniers mois dans la province du Nord Kivu. C'est une déclaration du chef des bureaux Otia RDC qui les dénonce. Donc, on a une moyenne d'un enlèvement par mois pour les 9 derniers mois.
Effectivement, c'est une situation qui est inquiétante et c'est pour ça que nous la dénonçons. Vous savez, effectivement, quand on fait cette moyenne de 9 enlèvements sur 9 mois, ça donne un enlèvement par mois. Peut-être que mathématiquement, ça paraît peu, mais dans le domaine humanitaire, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'en fait, au-delà du chiffre, il faut voir l'impact que ces enlèvements ont sur le travail humanitaire. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des enlèvements, il y a un retard qui est enregistré dans le travail que nous faisons. Ça veut dire que les ONG nationales et les agences concernés sont obligés de revoir leur programmation et tout cela en fait peut avoir un impact sur les personnes que nous sommes censés aider, notamment si on parle des enfants ou bien des personnes qui sont en situation de détresse extrême et qui ont besoin d'être sauvées urgemment.
Alors, qui sont les auteurs de ces enlèvements?
Les auteurs, on ne les connaît pas. Ce sont des faits qui se passent, comme on le dit, là on parle du Nord Kivu. Ça se passe dans les routes, dans des contrées loin des centres urbains. Donc, on ne les connaît pas, mais au-delà de ça aussi, pour nous, en fait, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que toutes ces personnes qui s'adonnent à ce type d'activité doivent savoir qu'elles sont elles sont en train de violer la loi internationale, elles sont en train de mettre en péril la vie de nombreuses personnes et ça c'est totalement inacceptable pour nous. Et
cela veut dire que ces personnes enlevées ne retournent pas dans les institutions?
Si, la plupart, alors la chance qu'on peut dire qu'on a, c'est que les personnes qui sont enlevées sont souvent relâchées dans les heures ou dans les jours qui suivent, donc ces personnes reprennent leur activité, mais c'est clair qu'avec chaque cas qui est enregistré, des mesures sont prises pour préserver effectivement la vie de ces personnes et atténuer autant que possible le risque de se faire kidnapper, de tomber sur des coupeurs de route ou autre incident qui peut nuire au travail humanitaire.
Mais Yvon Edoumou, quand vous dites que vous ne connaissez pas les auteurs, c'est-à-dire que les personnes enlevées ne peuvent pas identifier ce qu'ils ont enlevé?
Dans la plupart du cas, non, puisque c'est des personnes comme vous et moi qui ne portent pas forcément des signes distinctifs à part avoir une arme, des pistolets ou des couteaux. Donc c'est difficile de dire exactement c'est qui. C'est des personnes qui, comme je disais tantôt encore, sont partie de la communauté souvent dans laquelle on travaille. C'est difficile d'indexer ou de dire clairement qui sont les auteurs.
Alors, quels sont les actes qui accompagnent généralement ces enlèvements dans le chef de ces auteurs?
Quand ces enlèvements ont lieu, c'est souvent le vol de matériel, le vol d'argent. Ces personnes, évidemment, sont amenées dans des endroits inconnus. C'est essentiellement ça, c'est du vol de matériel. Ça peut aussi avoir des coûts physiques. Mais c'est essentiellement ça.
Le dernier enlèvement date de quand?
Ben le dernier, c'est celui dont on dénonce dans le communiqué, qui a eu lieu il y a à peu près une semaine, durant lesquelles des collègues humanitaires ont été enlevés dans la province du Rutshuru. Et encore, c'est, comme je le disais tantôt, c'est très déplorable parce qu'en fait, au finish, c'est toute la chaîne de l'action humanitaire qui est mise en mal avec chaque enlèvement, chaque kidnapping, chaque atteinte à la libre circulation des acteurs humanitaires, tant internationaux que nationaux dans le pays.
Oui, vous avez parlé un peu de quelques conséquences de ces actes sur la situation humanitaire dans la région. Donc c'est 1,6 million de personnes qui attendent l'assistance et qui ne l'ont pas à cause de ce genre de choses.
Oui, ça c'est le chiffre de personnes dans le Nord Kivu qui ont besoin d'aide humanitaire dans l'ensemble. Mais ça ne veut pas dire effectivement qu'à chaque enlèvement, il y a 1,6 million de personnes qui sont affectées. Ça veut dire par contre qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont affectés si tel ou tel acteur humanitaire suspend son opération ou suspend son activité parce qu'elle doit faire face à des mesures sécuritaires. On prend un exemple très concret. On a peut-être aujourd'hui des enfants dans une province donnée qui ont besoin de recevoir des vaccins. Mais si l'équipe de vaccinateurs est empêchée, est enlevée, est braquée, ça veut dire aujourd'hui que ces enfants doivent attendre 2 jours, 3 jours, 1 semaine, ce qui effectivement peut avoir un impact sur la santé. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ces situations. Bien au-delà des individus, des acteurs humanitaires qui sont kidnappés, il faut voir en fait qu'est-ce qu'ils allaient faire, où est-ce qu'ils allaient et l'impact sur les communautés.
Alors, quelle est la situation des humanitaires dans d'autres contrées du pays, autre que le Nord Kivu?
C'est une situation qui n'a pas beaucoup évolué et nous le dénonçons chaque fois que nous pouvons. L'Est du Congo demeure aujourd'hui une zone assez difficile pour tous les acteurs humanitaires, tant nationaux qu'internationaux. Ça part de l'ex-province orientale jusqu'à l'ex-Katanga. Et ça fait partie du milieu avec lequel nous travaillons. En tant qu'acteur humanitaire, vous ne pouvez pas vous attendre à un contexte paisible où tout va bien. Ce serait l'idéal, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez ici en RDC, il y a d'autres pays, la Syrie, la Centrafrique et tout. Donc, nous sommes conscients de ce fait, et ce que nous faisons en fait, c'est de, comme je disais tantôt, prendre toutes les mesures possibles pour atténuer, pour diminuer les risques. Ça veut dire être en communication avec les autorités, ça veut dire tenter autant que possible d'avoir de bons rapports avec les communautés avec lesquelles nous travaillons, pour qu'elles comprennent qui nous sommes, quels sont nos mandats, pourquoi nous sommes là. Ça veut dire aussi, de temps en temps, comme je disais tantôt, peut-être redéployer ou revoir la stratégie afin de pouvoir apporter de l'aide à ces personnes-là. Effectivement, avec ces 9 enlèvements, on aurait tendance à croire qu'on aurait peut-être pris une certaine peur à travailler, mais non, ça ne nous décourage pas, on est conscient de ça. C'est intégré dans le travail qu'on fait et puis on continue notre chemin.
Donc vous pouvez vous attendre aussi à un 10e enlèvement, à un 11e, pourquoi pas un 12e?
Vous le dites, mais effectivement, c'est la réalité. Maintenant, sachant ça, c'est à nous maintenant de prendre les mesures, notamment aussi avec les autorités congolaises, pour qu'elles aussi nous accompagnent dans ce travail que nous faisons. On ne peut pas le faire tout seul. Il y a les autorités congolaises, les autorités provinciales, nationales, provinciales, avec lesquelles nous échangeons afin de trouver les moyens, les mesures adéquates pour stopper autant que possible ces activités.
Donc votre message est en quelque sorte une interpellation des autorités congolaises.
En quelque sorte, mais ça, ils le savent, on le dit dans tous les forums, on a de très bonnes relations ici à Kinshasa avec la ministre des Affaires humanitaires et aussi dans les provinces avec les différents gouverneurs. On a des échanges assez réguliers avec eux, durant lesquels on leur fait part de nos préoccupations, de nos doléances, et en retour aussi, l'État congolais fait son maximum pour nous accompagner dans notre travail.
Yvon Edoumou, merci beaucoup.
Merci.
Nous revenons encore à la Journée internationale de la paix commémorée le 21 septembre. La fois passée, nous étions à Dungu dans les Hautes-Ouélé. Cette semaine, nous nous rendons à Bunia où une manifestation a été organisée par le projet à l'école de la paix. Sadiki Aboubakar nous propose ce reportage.
Cette journée a été célébrée sous une ambiance de joie totale. Les enfants ont chanté pour la paix. Ils ont déclamé des poèmes et ont même exhibé des danses traditionnelles rien que pour appeler à la paix et à la sécurité dans le pays. Pourquoi les enfants ont-ils été ciblés dans la célébration de ces journées? Jean-Claude Uchoun, coordinateur du projet à l'école de la paix, justifie.
La paix, c'est un processus qui s'établit pendant une longue période. C'est mieux de commencer à mettre les graines de la paix dans les chefs des affaires, dans l'esprit des affaires, de telle sorte que, quand ces affaires-là seront adultes, que ces affaires-là ne puissent pas avoir le même comportement, les mêmes actes, les mêmes décisions qu'avaient leurs parents et qui avaient induit leur pays, par exemple, dans la guerre, dans la violence, dans les mécontentements et dans tout ce que nous vivons.
Dans le message du secrétaire général des Nations Unies, lu pour la manifestation par Julius Fondong, chef de bureau intérimaire de la MONUSCO Bunia, Ban Ki-moon lance un appel à tous à pouvoir s'impliquer à bâtir dans l'échelle mondiale une société dont les membres vivent à l'abri de la pauvreté et bénéficient tous de la prospérité. Le ministre provincial de l'EPSP Culture et Arts, présent à la cérémonie, pense plutôt qu'il existe plusieurs défis à relever pour la paix. Pour cela, il affirme l'engagement du gouvernement provincial pour appuyer tout projet pour la paix. Une élève représentant tous les autres enfants a, à la même occasion, lu leur message adressé aux parents et aux dirigeants du pays.
Chers parents, chers membres du gouvernement, chers présidents, nous lâchons un cri du cœur. Les cris d'enfants meurtris par les souffrances, la pauvreté, les mauvais traitements tels que les travail forcés, les mariages forcés, les pratiques traditionnelles pénibles. Au lieu de nous envoyer à l'école, on nous envoie parfois manger dans la rue et on nous frappe sans pitié si l'on n'a pas ramené assez d'argent.
Bounia, Sadiq Aboubakar, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, de Science aux Nations Unies.
Faut-il pour la MONUSCO récuser le facilitateur Edem Kodjo? Écoutez cette question et la réponse de Félix Bass, porte-parole de la mission.
Oui, c'est M. Papio Kito du journal Écho d'Opinion. Et pourquoi la MONUSCO soutient toujours M. Edem Kodjo qui est récusé par l'opposition congolaise alors qu'il y a possibilité de la part de la communauté internationale d'échanger un nouveau facilitateur pour que les choses avancent? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, M. Bass, vous soutenez ou la MONUSCO soutient toujours la présence de M. Edem Kodjo dans ces assises. Merci.
Et d'abord, il faudra peut-être revenir un peu sur l'historique qui a prévalu pour qu'on ait M. Edem Kodjo comme facilitateur désigné par l'Union africaine ici. Il faut rappeler que ce sont les autorités congolaises qui ont soumis une requête auprès de l'Union africaine qui a joué son rôle sur le principe de la subsidiarité des institutions. Et l'Union africaine a dépêché M. Edem Kodjo comme facilitateur et M. Edem Kodjo jouit du soutien de la MONUSCO pour qu'il puisse arriver à obtenir les résultats ou les objectifs qui lui ont été fixés au départ par la présidente de l'Union africaine, mais aussi par les Nations unies. Mais pas que la MONUSCO qui soutient M. Edem Kodjo. Nous avons le soutien du groupe international pour la facilitation qui est aussi là, donc qui est composé de plusieurs autres partenaires dont l'Union africaine, la SADC, la CIGLR et d'autres partenaires de la République démocratique du Congo. Et je ne vois pas pourquoi vous estimez qu'à l'heure actuelle, à l'heure où nous n'avons pas encore conclu le dialogue national, vous estimez tout simplement qu'il faudra le récuser. Il est tout à fait normal que des avis divergents soient exprimés par toutes les parties à ce dialogue-là, mais je pense que ce n'est pas à la MONUSCO de récuser M. Edem Kodjo, puisque la MONUSCO ne l'a pas désigné au départ. Mais je pense que pour le moment, il faudra accompagner le processus qui est engagé, même s'il est suspendu, en tout cas arriver aux conclusions de ce dialogue qui a été initié depuis le 1er septembre. Donc nous maintenons notre soutien à M. Edem Kodjo pour qu'il puisse arriver à atteindre les objectifs qui lui ont été initialement fixés.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Franck Mbouembi, médecin de formation et également un spécialiste en santé publique. Je suis marié à Madame Kalonda Christine, père de deux enfants, un garçon et une fille, une jolie fille. En rapport avec mon parcours professionnel, actuellement je travaille chez ADRA où je suis chef de projet choléra. En fait, quand je me réveille le matin, j'ai pris comme tout chrétien parce que je suis chrétien et je m'apprête, je prends mon petit déjeuner et je vais au travail comme d'habitude. Quand j'arrive, il y a déjà des tâches qui sont bien reprises. Je suis chargé de l'exécution effective du projet choléra au niveau opérationnel, c'est-à-dire dans les 8 zones de santé réparties en deux provinces, la province de l'Équateur et la province de Maïndombe. Et dans la province de l'Équateur, il y a 7 zones de santé où nous intervenons. Et dans la province de Maïndombe, il y a une zone de santé, donc la zone de santé de Yumbi. En rapport avec mon expérience professionnelle, j'ai en fait travaillé dans la province de l'Équateur comme médecin traitant, médecin chef de staff, médecin directeur, médecin chef de zone intérimaire. J'ai été également médecin chef de district dans les districts sanitaires de la Champa à l'époque. J'ai assumé également les fonctions de médecin inspecteur provincial intérimaire à l'époque où nous avions l'épidémie d'Ebola dans la province. Et voilà, d'une manière brève par rapport à mon cursus, en rapport avec les organisations internationales et les humanitaires, j'ai travaillé avec MSF comme médecin, l'équipe médicale d'intervention EMI pour le projet choléra dans la province de l'Équateur, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu. Et oui, mon parcours académique, je suis diplômé d'État à l'école au lycée Tuya Kumpala dans la province du Kasaï Oriental, à Mbujimayi. Et après ça, je suis allé à l'université de Lubumbashi où j'ai fini à la faculté de médecine comme médecin généraliste. Et après, j'ai également fait un master à l'école de santé publique de Kinshasa. Et je suis donc détenteur d'un diplôme de spécialiste en santé publique. En rapport avec mes préférences, en fait, j'aime bien le sport, notamment le foot. Mon équipe fétiche, c'est Barcelone. La musique, oui, j'aime également la musique, les anciens succès et toute la bonne musique. Voilà. En rapport avec le manger, je suis vraiment fanatique des libokés, des libokés de Ngolo avec l'imposé, ceux-là qui connaissent mieux le lingala, ce sont les gnasses de palmier qu'on met avec du poisson et on fait un liboké, je crois que le liboké tout le monde comprend, avec la chikwanga. C'est mon repas préféré. En rapport avec les perspectives d'avenir, en fait, j'aimerais travailler dans les agences au niveau des Nations Unies et à la longue créer également une agence d'aide au développement dans l'avenir. C'est ce que je suis en train de penser, peut-être vers la fin de ma carrière, quand je vais prendre ma retraite, j'aimerais vraiment avoir une agence d'aide au développement humanitaire. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitaine.
Deux dates à retenir dans vos agendas. 3 octobre, journée mondiale de l'habitat. Et le 5 octobre, journée mondiale des enseignants. C'est la fin de ce magazine coordonné par Jean-Pierre Elali Ikoko, Honoré Mitsenga et Sadiq Aboubakar était au reportage. Sylvain Matundo a assuré la mise en onde. Moi, Suzanne Zobo-Odra, je vous l'ai présenté. Vous pouvez le réécouter sur notre site www.radiocapi.net. À la prochaine.